BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club MediaRH, un club très particulier, un spécial, c'est rare. Il y a plus d'une dizaine de personnes dans ce studio, c'est une première. J'espère qu'on va y arriver, que je vais y arriver surtout. En tout cas, je suis ravi de passer ce début d'après-midi en votre compagnie, une heure à la découverte du Salon du Travail et Mobilité Professionnelle, la deuxième édition, l'édition 2016, des 22 au 23 janvier prochain à la Grande Halle de la Villette à Paris. Alors c'est un véritable événement, ça démarre vendredi prochain, et on aura l'occasion avec les organisateurs, à la fois à l'Express, donc Christophe Barbier, directeur de la rédaction, Bernard Amanonsou, ancien président d'HEC et auteur du livre « Apprendre et oser », et Gilbert Azoulay, porte-parole de ce fameux salon du travail et de la mobilité professionnelle. On va faire un tour, avant l'ouverture du salon, on va faire un tour dans les allées de ce, pour l'instant, salon imaginaire, avec au programme la découverte du village « Je bouge en France », le village « J'ose le monde », on va parler du Canada, le village « J'entreprends » avec Dominique Cristino, que vous connaissez, que vous entendez souvent sur BFM, le village « Cherche un job », je découvre la fonction publique, je me forme, etc., etc. Donc, il faut impérativement que vous notiez bien « Save the date », comme on dit. Bonjour Christophe Barbier.
Bonjour, bonjour.
Comme on dit aujourd'hui « Save the date », gardez bien ces dates, 22, 23 janvier prochain. À Paris, vous y serez, bien sûr, en
bien
permanence.
Bien sûr, on va y être.
Alors, je suis ravi de recevoir à la fois l'organisateur, le responsable et en même temps la personnalité emblématique qui est Bernard Ramanonsou, Christophe Barbier, Gilbert Azoulay. Bonjour, je suis ravi
bonjour.
De vous retrouver sur le micro avec beaucoup de monde dans le studio. Chacun aura la possibilité de s'exprimer. Christophe Barbier, c'est l'Express qui est un peu le porte-drapeau, de cet événement.
C'est les Français qui sont les porte-drapeaux du combat pour l'emploi.
On va mettre la Marseillaise. Oui, allez-y.
mettons-la, on ne la met jamais trop. On voit bien que même quand on traverse des tragédies, la Marseillaise nous y fait penser. L'emploi redevient très vite la préoccupation principale des
Français.
Elle
est numéro une.
Pour eux, pour leurs enfants, et puis parce que je crois que les Français ont un sentiment de la grandeur de leur pays qui passe par la croissance économique, par le travail, par l'effort. Et donc, on a voulu, à l'Express, porter aussi ce combat en étant utile aux gens qui cherchent un travail, en étant utile aussi à ceux qui veulent changer de travail,
ou
changer dans leur travail. Mmh. C'est pour ça qu'on a fusionné notre salon du travail et le salon de la mobilité. La mobilité, elle est d'abord intellectuelle. Agilité, on entend chez les patrons, hein, contrat agile. C'est vrai qu'il faut être agile et il faut être mobile.
Voilà la bonne idée, je suis sérieux, la bonne idée, c'est d'avoir dit le salon du travail et non pas le salon de l'emploi, parce que le mot emploi aujourd'hui est tellement galvaudé. Il y a un ministre de l'emploi,
il y a un pôle
pour l'emploi. Exactement, le salon du travail, le mot travail, on a tous droit au travail.
On
et
a
c'est
droit
vrai
au travail.
Aider les Français à le trouver, ce fameux travail, parfois sous la botte d'un cheval.
Oui, et puis
c'est utile.
Les Français s'interrogent aussi sur leur travail, sur leur rapport à l'entreprise,
exact.
Sur leur capacité à être encore dans le coup, et donc quelle formation faire pour acquérir des compétences supplémentaires. Et puis au-dessus de tout ça, je pense que le travail, c'est une valeur aussi. C'est une valeur qu'on cherche à inculquer à ses enfants, c'est une valeur qu'on défend, et ça méritait d'être rappelé dans l'intitulé du salon.
Le magazine L'Express, le journal L'Express, chaque semaine, donne la parole justement à ceux qui s'intéressent à ce sujet, qui est un sujet de société, le sujet du travail.
Exactement, on a des rubriques dédiées, on a choisi aussi de mettre l'accent sur ce qu'on appelle le sens du travail, le sens du business depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on voit que pour motiver les gens qui cherchent un travail, pour motiver ces cadres, ces collaborateurs, il faut aussi porter d'autres valeurs. Le développement durable en a été une, très en vogue en 2015 avec la COP21. Tout ce qui est développement social, sens de l'humain à l'intérieur du travail, participe maintenant de la création de richesses, on le sait. Mmh. Et ça, ce sont des valeurs historiques de l'Express. Donc, on n'a eu aucun mal à les importer dans cette thématique.
Gilbert Azoulay, vous êtes le porte-parole de ce salon.
Oui, oui.
Vivre pleinement sa vie professionnelle, c'est ce que vient de dire Christophe Barbier, est la priorité numéro une des Français.
Bien sûr. Et je reviens juste sur le mot travail. Vous savez, quand Christophe, on a imaginé ce salon, on s'est tous posé la question, salon du travail, ça fait un peu ringard. Tout le monde a dit, oh, mais il va y avoir des partenaires sociaux, des syndicats. Non. L'automobile a son salon, salon de l'automobile, l'agriculture a son salon, le travail méritait son salon lui aussi, son grand rassemblement. Et c'est vrai que aujourd'hui les Français se posent des questions simples. Trouver un travail, bien entendu, pour plus de 3 millions de personnes, mais également changer de vie. Et c'est vrai que la mobilité, la notion de mobilité nous apparaît comme essentielle. S'épanouir dans son travail, c'est essentiel. Et s'épanouir dans son travail, c'est être mobile et pouvoir changer quand on a des ambitions différentes, une vie qui change, une situation personnelle qui évolue, et puis des rêves qui grandissent. Tout ça, on a voulu les mettre dans un même espace pour donner aux gens une sorte de plateforme, une sorte de centre de ressources complète, la plus complète, le plus complet possible pour leur donner toutes les opportunités envisageables.
Gilbert Azoulay, ce salon unique propose des rencontres, des échanges avec des spécialistes du monde du travail. 350 exposants, c'est bien ça?
Oui.
L'administration publique, chambre
des
métiers.
La formation continue.
Collectivités.
Des entreprises, des régions, des collectivités, vous l'avez
dit. Fédérations professionnelles.
Des fédérations. Puis tout l'écosystème de l'emploi et de la mobilité sera représenté, bien entendu, ce qui permettra à tous de se faire une idée un peu plus précise du chemin qu'ils vont emprunter dans les 10 ou 20 ans qui lui restent à passer sur le marché du travail.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on y mêle Christophe Barbier, aussi bien les entreprises publiques et privées. Ça aussi, c'est important.
Oui, c'est important parce que je pense que du côté de ceux qui cherchent un travail ou qui veulent évoluer dans leur travail, la distinction maintenant est assez mineure. Et les rapprocher, c'est aussi montrer que le public ne fait pas la guerre au privé, ni l'inverse.
Gilbert Azoulay, j'ai lu 40 000 visiteurs attendus pour cette nouvelle édition.
C'est-à-dire
c'est qui va venir? Alors, qui attendez-vous? Et on est là pour faire la promotion, pour dire venez, c'est le 22 et le 23 janvier. Notez bien, 22-23 janvier, à Paris, à la Grande Halle de la Villette.
Alors, ceux qui viennent, ce sont ceux, principalement aussi, qui cherchent du travail, mais pas que. C'est-à-dire ceux qui ont des ambitions pour, on parlera du Canada tout à l'heure, ceux qui veulent avoir, qui ont un rêve de
un
mobilité,
projet.
Un projet de création d'entreprise, de mobilité géographique, de mobilité sectorielle, de métier, tout simplement, ou bien ceux qui se posent des questions. Et là, ce sont les rencontres qui permettront tout ça. Discuter avec des personnes, c'est souvent, pouvoir bénéficier d'un effet miroir. Tiens, ça m'intéresse, ce qu'il m'a dit. Et ça, c'est le petit bois pour allumer le feu, pour imaginer de nouvelles pistes pour imaginer d'autres choses dans sa vie.
Alors au programme des colloques, des rencontres thématiques, et je suis ravi et très honoré de recevoir, on a eu l'occasion déjà de se rencontrer, Bernard Ramenon-Dessous, vous êtes ancien président d'HEC et auteur du livre « Apprendre et oser ». Je l'annonce déjà, d'ores et déjà, on s'est mis d'accord, dans 15 jours, vous serez dans ce studio, mais cette fois pour une interview avec vous, face à face, sur ce livre que j'ai beaucoup apprécié, énorme, ce livre « Apprendre et oser ». On en parlera dans le détail ensemble. Mais là, vous avez eu la gentillesse de venir dans le cadre de cette émission spéciale. Bernard, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette idée de la France qui bouge, cette rencontre à la fois, justement, très ouverte dans tous les sujets qui touchent au mot « travail » ?
Alors, je crois que ça a déjà été très bien dit. Je crois que le titre reflète bien ce qui doit être les valeurs de la France. C'est-à-dire, à la fois le travail. Je pense que le travail est une valeur, est une grande valeur, est en plus une valeur qui fédère. Et la mobilité, c'est quelque chose aujourd'hui, qui, on ne le dit pas assez, est un des grands atouts de la France. C'est-à-dire être capable de bouger intellectuellement, de bouger mentalement, de bouger en France et de bouger vis-à-vis de l'international. Suivez mon regard, on a trop souvent tendance à opposer le côté franchouillard, etc. Bien non, on peut être très français, très fier d'être français, et vouloir être très mobile vis-à-vis de l'international.
D'ailleurs, Bernard Ramenon-Dessous, aujourd'hui, et je reviens sur HEC, combien d'étudiants, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans cette grande maison, qui disent, moi, la prochaine chose que je vais faire, c'est de partir.
Bien sûr.
Mais c'est pas partir pour partir.
Non.
C'est pour apprendre, c'est ce que vous dites. Apprendre
partir,
et oser.
Apprendre et oser, c'est pour partir, c'est pour construire, c'est pour participer à la construction du monde. Une des parties du titre de mon bouquin, c'est au 21e siècle, c'est le business qui fait l'histoire. Et donc les gens ont envie, et les Français en particulier, ont envie de construire l'histoire. De ne pas du tout, il faut pas croire à tous les discours sur la frilosité. Je crois que tout le monde a envie de construire l'histoire, et ça se fait par le travail, par la mobilité, et donc par la formation.
Vous avez raison, messieurs, mesdames, de faire ce salon. Parce que vous venez de le dire, le travail c'est une valeur. D'ailleurs, c'est marrant, en anglais, le signe du mot énergie, c'est le même que celui du travail.
Oui, oui, absolument.
Dans la langue anglaise. C'est étonnant. Mais c'est une vraie valeur. Et comme c'est une vraie valeur, ça peut être aussi une valeur de souffrance. Quand on n'en a pas du travail.
Quand on n'en a pas, ou au travail, il ne faut pas négliger cela, il ne faut pas négliger la souffrance psychologique de ceux qui sont au travail. C'est des réalités qu'on a trop négligées dans notre pays. Il faut prendre en question et en considération cette souffrance, notamment celle de ceux qui cherchent un travail. Après, il ne faut pas leurrer les gens. On ne va pas faire l'aumône d'un travail, ce n'est pas une pommade pour calmer une souffrance. C'est mettre les gens dans un processus où ils vont devoir se remettre en question, se former, changer de métier, changer de région, changer de pays peut-être, en tout cas changer de vision de leur propre parcours, et réparer peut-être les erreurs initiales où on leur dit qu'un métier c'est pour la vie. Donc ça, c'est aussi le rôle d'un salon que de leur montrer qu'il y a énormément de possibilités. Ce n'est pas des issues de secours. C'est des possibilités.
Ce salon du travail mobilité professionnelle, des 22 et 23 janvier prochains, c'est une initiative privée.
Oui et non, parce que quand on...
Non, mais est-ce que l'État a quelque chose à faire dans un salon?
Mais bien sûr, l'État a quelque chose à faire dans un salon. L'État n'est peut-être pas le mieux placé pour organiser ce genre de salon, parce que j'allais dire, c'est une entreprise de spectacle. Et évidemment, nous, on va mettre Alexandre Jardin au milieu des conférenciers, je peux vous dire, ça va mettre la pagaille. C'est pas à l'État qu'on peut demander ça. En revanche, l'État... doit tenir à disposition ses expertises, l'État sera là, la ministre du Travail nous soutient, elle sera présente, elle sera dans nos colonnes, et ça c'est bien pour montrer que l'État a compris que face au chômage, si on commençait pas à unir toutes les volontés, on s'en sortirait pas.
Alors, Monsieur Azoulay, on va donner juste quand même peut-être les grandes étapes. Je parlais de colloque, de journée colloque, le 22 janvier, le programme, où Alexandre Jardin, mais il était invité à venir, présenté comme un expert avec Christophe Barbier,
Je précise que Bernard Amarnotou sera chez vous, mais il sera chez nous aussi pour conclure le colloque à 16h30, puisqu'on parlera de son bouquin.
Ce jour-là, le 22.
Le 22 janvier, à la fin de la journée. Mais le colloque, en fait, j'ai rencontré Alexandre Jardin plusieurs fois, et Alexandre Jardin, vous le savez, avec son mouvement Bleu-Blanc-Zèbre, s'est engagé dans une action citoyenne, hein, Christophe, c'est comme ça qu'on peut dire, pour... créer, comme il dit, des bouquets d'actions associatifs pour l'emploi, pour la diversité, pour la lutte contre l'exclusion des femmes. Bref, autant de combats qui sont tout à fait louables. Et il s'est engagé avec des collectivités locales pour contrer ce qu'il dit la France figée d'en haut. Donc, il y aura des actions pour l'emploi. Et lui, on veut l'opposer à la France qui représente ce que j'appelle les apparatchiks. Ouais. Et Christophe va faire l'arbitre de boxe entre lui.
Il y arrivera.
Je m'entraîne.
Du talent.
Je m'entraîne.
Je pense que... Alors, je donne le programme. Soyons concrets, du 22 janvier, ça commence à 9h30. En finir avec les vieilles recettes avec Alexandre Jardin. Ouais. 10h45, 12h30. Je donne le programme, c'est encore plus clair. La France qui bouge rencontre avec nos champions 15 startups. Ça va être animé par vous, Gilbert Azoulay.
Il y aura Dominique Restineau de la PCE qui viendra dire un mot d'ailleurs.
14h30, 16h, la politique de l'emploi. Qui doit piloter État, région et entreprise.
Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est un peu ça qu'on a voulu dire. Mais qui pilote l'emploi en France?
C'est une bonne question. Et vous venez de le préciser, à 16h30, rencontre avec Bernard Ramanonsou, auteur de l'ouvrage « Apprendre et oser ». Bah, ça fait un programme pour cette première journée de colloque.
Ouais, c'est tout possible. On a essayé de défricher tous les possibles. Voilà, quelles sont les pistes du terrain avec Alexandre Jardin, les pistes des institutions, qui ont parfois aussi de bonnes idées, toutes les mettre dans le même sens.
Ouais, je précise quand même qu'ils n'ont pas eu peur d'affronter Alexandre Jardin, y compris les hauts fonctionnaires.
Vous restez avec nous et là, on va partir à la découverte de ce salon, dans le détail.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Émission spéciale Salon du Travail et Mobilité Professionnelle, édition 2016. C'est du 22 au 23 janvier, dans quelques jours, à la Grande Halle de la Villette à Paris. N'oubliez pas, vendredi en gros et samedi prochain, il faut vous rendre à la Grande Halle de la Villette pour participer à ce salon qui est, c'est sa deuxième édition, mais c'est une première. Moi, je trouve ça formidable d'avoir eu l'idée de mettre dans ce salon plusieurs... Alors, c'est pas le village des Gaulois, Christophe Barbier, mais presque, mais pas ça du tout non plus. L'idée, c'est d'avoir réuni des villages thématiques.
Oui, on voit bien que...
Je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, que l'Express est non seulement le partenaire, mais c'est un
meneur. L'initiateur de ce regroupement de villages. Voilà, c'est une communauté de villages, chacun pouvant apporter aux visiteurs des solutions concrètes, que ce soit pour partir très loin à l'étranger, que ce soit pour créer son entreprise, etc. Et des expériences de métier. C'est-à-dire que le travail, c'est très bien, mais dessous, il y a des activités, des métiers très précis. Et quand on veut en changer ou progresser dans son métier, il faut avoir affaire à des professionnels, ils seront là.
Alors, trouver du travail, c'est pas seulement trouver du travail, c'est aussi trouver le bon secteur, trouver la bonne branche, trouver la bonne formation, trouver la bonne orientation. Et on peut aussi créer son emploi, on y viendra tout à l'heure. Et de plus en plus, d'ailleurs, les Français le font.
C'est trouver la bonne aventure, en fait. Et on se rend compte que le travail, maintenant, c'est ça. C'est se dire, voilà, je sais quel risque je cours dans cette aventure professionnelle, je sais quel bénéfice je peux en tirer. Je veux être accompagné. J'ai besoin de Sherpa, j'ai besoin d'être encordé. C'est ça qu'on propose dans ce salon.
Alors, dans ce salon, 6 villages thématiques, la mobilité professionnelle, le titre « Je bouge en France », l'entrepreneuriat « J'entreprends », « Je cherche un job », ça c'est la recherche d'emploi, « Je découvre l'emploi public pour le secteur public », « Je me forme », bien sûr la formation continue, et enfin « J'ose le monde » pour tout ce qui touche à l'expatriation. Un colloque avec des experts RH, des spécialistes, animé par Christophe Barbier, directeur de la rédaction de l'Express, un pavillon institutionnel. Vous avez raison de signaler qu'il y aura le ministère de l'Emploi et Pôle Emploi. Plus de 80 conférences thématiques et ateliers pratiques. On va aller dans le détail, visiter un peu en avant-première et d'une manière un peu virtuelle ce fameux salon. Et on va commencer par, j'ai envie de dire, je bouge avec le village Je bouge en France, avec Rodolphe Richer. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Alors vous y serez, bien sûr.
Bonjour à tous. Alors, vous, Rodolphe, vous êtes directeur de Cambrésis Développement Économique. Exactement. Et l'objectif pour vous d'être présent, Cambrésis, c'est une, c'est un secteur, c'est un pays, le pays de Cambrésis.
Oui,
de
c'est un pays.
De la bêtise, la bêtise.
Alors voilà, oui. Alors je vous en ai ramené quelques échantillons.
Pour que, voilà, on a la boîte de la bêtise de Cambrésis.
On va essayer évidemment de pas en faire trop, mais notre objectif sur ce salon, je dis notre parce que évidemment on n'y va pas tout seul.
Vous êtes un exemple de ce qu'on trouvera sur Je bouge en France. Hein.
Oui, il y a d'autres territoires, évidemment, d'autres villages gaulois, hein, pour reprendre cette expression. Alors nous, on est présent sur ce salon. Donc je disais d'abord pas tout seul. On y va en tir groupé. On chasse en meute un petit peu comme les entreprises à l'international, avec nos partenaires Cambrésis Emploi et la Ruche d'entreprise. Donc on y vient pour présenter le dynamisme de Cambrai, le dynamisme du Cambrésis, et puis surtout offrir aux visiteurs qui viendront nous voir des opportunités, des vraies opportunités, des opportunités en matière d'emploi, des opportunités en matière de reprise ou de création d'entreprise.
Zones d'activité, voilà, bâtiments, partenariats, main-d'œuvre disponible pour les entrepreneurs,
tout à fait.
Les entreprises qui veulent s'installer. En fait, vous souhaitez être un interlocuteur réactif.
Tout à fait. On est une sorte de conciergerie pour les porteurs de
projets. C'est une belle formule.
Voilà, on apporte tous les services clés en main sur toutes les questions qui se posent pour venir bouger en France. Ben venez bouger chez nous. On est un territoire dynamique. On accueille des entreprises internationales. On est un village gaulois ouvert sur le monde.
Dans le Nord-Pas-de-Calais.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, avec des opportunités en matière de création d'entreprises, des accompagnements, des financements, toutes sortes de solutions.
Alors justement, Rodolphe Richer, de vous couper.
Vous en prie.
Si j'ai bien compris, vous allez très loin. C'est de l'assistance technique, stratégique, pour aider ceux qui voudraient venir et qui doivent venir s'installer chez
bien
vous.
Bien sûr qu'ils doivent venir. C'est un territoire. Enfin, voilà. La région, ben voilà, les ch'tis, on va pas revenir sur la qualité de notre accueil avec donc tout ce qu'on a pu en dire, mais c'est aussi et pour revenir sur des choses qui concernent directement le salon, pour aussi casser parfois cette image un petit peu de territoire en crise. On a aujourd'hui un territoire qui est dynamique, qui comporte des pépites en matière de haute technologie, de nouvelles technologies, mais aussi en matière d'industrie traditionnelle, et on l'oublie pas. Et nous, chez nous, dans notre secteur, ça a son importance, hein, la dentelle, etc., qui est aujourd'hui exporté dans le monde entier et qui porte l'emblème du Cambrésis.
Mais ce que je retiens au travers de ce que vous dites, et j'aimerais que Christophe Barbier apporte son témoignage là-dessus, si je comprends bien, aujourd'hui, les régions, les pays, comme on dit, sont amenés à se battre presque au couteau pour dire être en concurrence avec d'autres régions, d'autres pays, et c'est bien, c'est une bonne chose, selon vous.
C'est une très bonne chose. L'exemple du gâteau cambrésis est très intéressant parce que c'est un terroir où à la fois on reste fidèle à ses traditions, on parlait des bêtises ou de la dentelle, c'est-à-dire des industries ancestrales, on ne tourne pas le dos, et en même temps, on cherche les nouvelles pépites sur les nouvelles technologies, sur l'image. Et on a vu le Nord-Pas-de-Calais être pionnier dans cette réforme-là. Après, la concurrence entre régions, entre pays, entre bassins d'emploi, elle est formidable. Elle est formidable pour la France. Parce que la vraie concurrence, le vrai problème de la France, c'est d'avoir un énorme cerveau francilien et de trop avoir laissé tomber ces métropoles et ces régions. Et on voit que c'est par le bas que les petits commencent à avoir des muscles. C'est pas pour rien qu'Alexandre Jardin, lui, pareil, il a la même démarche. Alors, par les citoyens, pour dire, allez, on s'occupe pas de nous à Paris, on va s'occuper de nous, on va se prendre en main de nous-mêmes.
Gilbert Azoulay, dans le cadre de ce premier village que l'on visite de Je bouge en France, il y aura combien de pays comme celui de notre ami Michel?
Ah il y a une dizaine de territoires, on va dire.
On peut les citer, vous les avez en mémoire?
Je les ai en mémoire. Pas tout. Alors, Franche-Comté, Niort, qu'ils sont, voilà, tu me les sors sous les yeux. Non, c'est pas ça. Je les ai pas en tête, bien sûr. Et vous me clouez. Mais tout ce que je peux dire, c'est que les régions, c'est un peu compliqué en raison des élections. Donc, elles n'ont pas pu s'organiser actuellement. Ce qui est intéressant avec le Cambrésis, c'est qu'on voit que ce sont des petits territoires. Pardonnez-moi, ce ne sont pas des immenses régions, mais ce sont des
pas péjoratif.
Voilà, ce sont des petits territoires avec une forte densité de compétences, avec des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des universités et un tissu de PME, voire de TPE, extrêmement dynamique qui cherche à attirer attirer les talents et les créateurs.
Rodolphe Richer, pourquoi est-ce si important aujourd'hui, justement, d'en arriver à se battre au niveau local et de vendre, parce qu'il s'agit de vendre la région.
Justement, je reviens à ce que disait Christophe, hein, on est dans une aujourd'hui dans une logique où on doit se prendre en main, on doit aussi créer l'initiative et montrer par nous-mêmes que on est capable de porter des initiatives, d'accueillir des porteurs de projets et de porter une dynamique et toutes ces dynamiques et toutes ces dynamismes cumulés feront aujourd'hui feront la richesse de la France dans les années à venir.
Et l'emploi,
bien sûr.
Dans ce salon du travail et mobilité professionnelle, édition 2016, 22, 23 janvier, la grande halle de la Villette, on va pouvoir bouger en France et la France vous ouvre ses bras. Mais le monde aussi, et il faut aussi savoir oser le monde.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
Bonjour Louise Van Veek.
Bonjour.
Est-ce que l'ai-je bien prononcé, Van?
À peu près.
Allez-y, comment dit-on au canadien?
Moi je dis Van Winkle.
Oui, c'est pas pareil. Non.
Ma mère c'était la Violette, ça aurait été plus facile.
Alors vous êtes responsable de la promotion francophone à l'ambassade du Canada. Vous serez présent dans le village J'ose le monde sur ce salon. L'objectif c'est quoi, par exemple pour le Canada, puisque vous serez plusieurs pays, j'imagine, à vouloir attirer des candidats français demandeurs d'emploi ou qui ont envie de bouger, d'avoir un projet.
L'envie est là, on le sent, on le voit dans le succès du hors-série de l'Express d'ailleurs s'installer au Canada. Plusieurs thèmes qui ont déjà été évoqués dans cette émission me parlent beaucoup. On connaît le Canada, mais on connaît certaines villes. On parle du phénomène MTV, Montréal, Toronto, Vancouver. Ce sont des villes formidables, mais ça ne résume pas le Canada. Il y a des projets, beaucoup de gens se posent des questions sur les démarches. Mais je pense qu'on est là pour aider les gens à préciser ce qu'ils veulent faire. Est-ce que c'est un séjour linguistique pour baigner?
Est-ce que c'est travailler, étudier, entreprendre, apprendre une langue?
Toutes ces possibilités sont là. Dans un certain ordre peut-être, avec un projet de retour ou pas. On est là pour vraiment aider les gens à préciser leur projet et leur donner les bons partenaires au Canada avec qui discuter.
Alors Louise, tout le monde connaît la cabane, ma cabane au Canada de Lynn Renault. Mais aujourd'hui, sincèrement, le Canada ouvre ses bras très grand pour proposer à des Français de venir s'installer.
Continue à ouvrir ses demandes. Bras, il y a des
quelles
demandes.
Quelles sont les demandes annuelles?
On a à peu près 5000 personnes qui deviennent résidents permanents, qui sont partis de la France, mais s'ajoute à ça à peu près 18 000 travailleurs temporaires, à peu près 16 000 étudiants étrangers, plus ceux qui vont faire des courts stages, des séjours linguistiques qui sont même pas sur le radar de l'immigration en tant que tel. Donc un mouvement constant, beaucoup de visiteurs aussi, donc beaucoup de mouvements. Ce qu'on essaie de faire par ce salon, ça sera notre deuxième participation. Nous venons aussi avec des renforts parce qu'on a vu vraiment l'affluence sur notre stand l'an dernier, les conférences, les ateliers. On vient avec nos collègues des relations universitaires qui pourront parler des opportunités d'études. Ça peut être dans un projet de reconversion, ça peut être vraiment ce souhait de mobilité. Et je pense qu'au Canada, on ressent une mobilité professionnelle, une mobilité sociale. C'est ce qu'on nous dit souvent au retour.
Christophe Barbier, il y a un lien évident entre le Canada et la France. En plus, historique.
L'an dernier, on a refusé du monde à la conférence sur le Canada où il s'agissait d'expliquer ce que c'était que d'aller au Canada. Parce que le Canada, ça attire, c'est fantasmatique, c'est nos cousins, on a l'impression que c'est la porte à côté. Attention, ça se prépare, une expatriation. Que l'on veuille être résident permanent, travailler, créer une entreprise ou simplement étudier, prépare. Alors, ce qui est formidable, c'est que le Canada nous envoie des émissaires formidables pour préparer ça. Et donc, personne ne pourra dire qu'il n'a pas été prévenu, ça se prépare. On l'a entendu, hein, près de 50 000 Français chaque année qui vont là-bas pour une expérience professionnelle ou d'étudiant. Donc ça, c'est formidable. Mais ça se prépare. C'est pour ça qu'il faut venir au salon, c'est parce que c'est là que seront les conseils pratiques, ça ne s'improvise pas.
Une forte délégation de d'hommes et de femmes du Canada qui seront là pour répondre.
Absolument, aux déjà demandes de l'ambassade. Donc nous sommes là tout le temps et pour ceux qui ne pourront pas se déplacer au salon, on a tout un programme de webconférences et aussi des sessions dans différentes villes en France au cours de l'année. Au salon, nous serons avec des collègues de l'Ontario, la province de l'Ontario, Toronto, Ottawa que vous connaissez, aussi du Nouveau-Brunswick, seule province canadienne officiellement bilingue avec énormément d'opportunités de reprise d'entreprise, d'emploi.
Je vous écoute, mais parfois on se dit, si je veux trouver un job au Canada, il faut que j'ai des diplômes, il faut que j'ai un cursus particulier.
Il y a des besoins dans tous les domaines et je pense que nos programmes d'immigration
le reflètent. La porte est grande ouverte pour des Français qui veulent.
On a des programmes spécifiques pour les métiers spécialisés, construction, fabrication, les métiers de bouche sont très reconnus comme les professions plus diplômées.
Vous recherchez des journalistes parce que Christophe Barbier.
Alors là, dès que je peux, je fonce.
C'est les infos, surtout juste après. On continue la visite de ce magnifique salon. Merci.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Le club seconde partie, comme vous le savez, on est dans le salon du travail et mobilité professionnelle, l'édition 2016, des 22-23 janvier prochain, à la Grande Halle de la Villette. C'est vendredi prochain, un très gros événement que je vous conseille de garder dans vos tablettes. Save the date, comme disent nos amis anglais. Et c'est pas la représentante du Canada qui me démentirait. Vous l'avez entendu, Six Villages, au travers de Christophe Barbier, directeur de la rédaction à l'Express, qui est partenaire et porteur de ce projet, avec Bernard Ramanantsou, qui est l'ancien président d'HEC, auteur du livre Apprendre et oser, qu'on aura tout à l'heure avant la fin de l'émission, Gilbert Azoulay, porte-parole de ce salon du travail et de la mobilité professionnelle. Eh bien, Six Villages thématiques. On vient de parler de Je bouge en France, j'entreprends, je découvre la possibilité de oser le monde. Eh bien, cette fois, on va continuer la visite de ce salon qui va démarrer très prochainement. À le retour de notre studio, eh bien, d'autres, de nouveaux invités. D'abord, Monsieur Restino, comment allez-vous ?
Très bien, Alexandre. Je vais très très bien.
Je suis ravi de vous retrouver autour de ce micro. Alors, à la fois, Dominique Restino, président fondateur du MoveJ.
Absolument.
M2OVJ2E.
Oui.
Et président de la PCE. Sachant qu'on va en parler, il y a un livre qui est sorti ou qui va sortir.
Qui est sorti, qui a été coécrit par Bénique Sanson, cofondatrice du MoveJ, Vincent Redrado, jeune entrepreneur de 25-26 ans, et moi-même, sur Jeune, créez votre entreprise, qui sera également dédicacé sur le salon. C'est un ouvrage avec beaucoup de témoignages qui permet de partir de l'envie au lancement pour des jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans.
Alors, ce village... J'entreprends là encore, quand on dit village, ça veut dire qu'il y a plusieurs exposants, notre ami Gilbert Azoulay va nous le préciser tout à l'heure. À chaque fois, il y a combien de Gilbert, autour de, prenons l'exemple du village J'entreprends, il y a toujours au moins une dizaine ou une vingtaine, j'imagine, de stands.
Ah bah oui,
différents.
Beaucoup plus, puisque de toute façon il y a toutes les agences, les associations, y compris les entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement des startups, par exemple, ou qui peuvent financer même. Donc il y a tout cet écosystème, hein, je vous dis, à chaque fois on a reconstitué les écosystèmes des univers qu'on a voulu présenter et défendre au travers de ce salon.
Alors, avec vous, j'entreprends, Dominique Restino, la France est l'un des pays où le délai pour créer sa propre entreprise est le plus rapide, dit-on. La PCE, l'Agence pour la création d'entreprises, et le MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, se mobilisent pour accompagner les visiteurs et les aider dans leur parcours d'entreprise, par exemple.
Alors, tout d'abord, j'aimerais reprendre un point que vous avez évoqué en début d'émission. Le mot travail est un formidable mot. Ça fait 2 ans que j'ai le privilège, enfin le plaisir en tout cas, de participer à ce salon, d'être au comité d'orientation de ce salon. Et j'ai tout de suite beaucoup aimé ce mot travail, de remettre ce mot travail. Alors nous y sommes, je préside l'Agence pour la création d'entreprise et j'ai fondé le MoveJ. Nous y sommes bien sûr pour accompagner tous ceux qui portent un projet de création ou de reprise d'entreprise à travers l'Agence pour la création d'entreprise, qui devient en ce moment l'agence France Entrepreneur. Donc c'est l'agence pour la création d'entreprise qui suit une transformation, une accentuation, notamment également sur l'ensemble du territoire français, et notamment avec une accentuation sur les territoires fragiles.
Dominique, dans ce village, sur ce salon, tout est, soyons concrets, on y trouvera que des exemples concrets. On est accompagné, on est pris en main, on est aidé, on est épaulé, soulevé.
On y trouvera toutes les informations.
Pour créer son entreprise, j'entreprends en France.
Toutes les informations pour pouvoir créer une entreprise, pour pouvoir la reprendre. On y trouvera également des témoignages, on y trouvera également des concours. Le MoveJ parlera de son concours MoveJ Innovant Ensemble, qui est un prix national. Mais à travers notamment la PCE et tous les partenaires de la PCE, Agence France Entrepreneur, il y aura tous ces parcours qu'on peut retrouver afin de pouvoir savoir comment on crée. Alors bien sûr, la grande question, c'est toujours les statuts, mais c'est jamais... la vraie bonne question. Enfin, je crois pas. Mais vous disiez en France, oui, en France, la France est l'un des pays au monde où on accompagne le plus la création d'entreprise. Je crois qu'il y a une phrase qu'on aime bien chez BFM Business, c'est la France a tout pour réussir. Eh bien, oui, en France, on peut entreprendre, on peut également reprendre des entreprises. Ce qu'il faut maintenant, c'est pouvoir développer ces entreprises. Et il y a tous ces parcours, des témoignages avec des jeunes, avec le MOVJ, mais pas que, avec des hommes, des femmes, des gens de 50 ans, on peut entreprendre, on peut voyager. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre.
Merci Dominique Restino, vous restez avec nous. Alors on va continuer la visite. On peut entreprendre, on peut créer son entreprise, sa start-up ou pas, mais aussi on peut, et c'est le cas, rechercher un job. Bonjour à vous Estelle Sauva.
Bonjour.
Alors vous, c'est le village Je cherche un job. Vous êtes directrice générale de Sodi Cabinet Conseil en RH, c'est bien ça?
Oui.
En un mot, ce que c'est que votre cabinet, juste pour vous situer?
On est un cabinet spécialisé en accompagnement et en gestion des transitions professionnelles, donc de tous les salariés qui s'interrogent sur leur carrière et qui se souhaitent prévoir, organiser leur rebond.
C'est une société du groupe Alpha.
Groupe Alpha, effectivement.
Groupe de conseil en ingénierie RH, c'est bien ça?
Exactement, et puis également gestion du dialogue social en France et sur les territoires en France.
Alors, exemple avec vous, vous y serez, Estelle Sauva, à ce salon du travail de la mobilité professionnelle, édition 2016, 22-23 janvier, à la Grande Halle de la Villette, et c'est très prochainement, c'est la semaine prochaine, pendant 2 jours, c'est un espace orientation professionnelle. Concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve? J'ai vu un Sodi Coaching, je sais pas ce que c'est un espace Sodi Coaching.
Alors, en fait, nous, c'est la deuxième édition, on a eu un tel succès l'année dernière face à tous ces visiteurs qui ont été particulièrement satisfaits de pouvoir bénéficier d'une orientation professionnelle à deux titres. D'abord, une trentaine de consultants qui sont là pour organiser le parcours au sein du salon et aider les uns et les autres à pouvoir rencontrer les 250 exposants qui sont là pour pouvoir leur donner du conseil. Dans une logique, je réponds à toutes vos questions. Les questions, qu'est-ce que je peux faire demain? Comment je peux me repenser? Comment je peux prévoir ma carrière? Je veux effectivement me créer et puis je vais aller rencontrer les experts. Donc on est là pour pouvoir effectivement organiser, répondre à ces questions avec des consultants.
Et j'ai vu que c'était très concret. Vous proposez des échanges individuels conviviaux, les visiteurs vont pouvoir s'entraîner aux entretiens de recrutement, vous allez proposer des conseils pour upgrader, j'adore cette fois, upgrader leur CV, avoir des infos concrètes sur les outils RH, etc., l'évolution de carrière, le coaching VAE. Alors c'est quoi le Sodi Coaching?
Alors le Sodi Coaching, c'est le second espace. En fait, c'est un second spot sur lequel on propose de pouvoir accéder à notre offre qui est un accompagnement digital. C'est une plateforme qui prévoit en fait une série d'outils en digitalisation en complément de l'accompagnement qu'on propose avec nos consultants. Vous allez y retrouver plus de 500 000 offres d'emploi. Donc on est sur des réponses concrètes, la possibilité de regarder sur un territoire votre réalité immédiate avec des smileys, avec des jeux assez ludiques, mais en fait une réalité qui vous donne de l'espoir au sortir de ce salon en vous disant mais finalement j'ai des offres en face de mon projet, il y a des orientations possibles, il y a des acteurs pour pouvoir organiser mon parcours. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir répondre de façon concrète à ces questions en temps réel.
Et dire c'est possible et apporter des réponses concrètes et immédiates, c'est avec ça le plus possible.
Avec des consultants passionnés par leur métier.
Ouais. Bravo pour vous tous. Pour tous ces villages gaulois qui aident à les Français, les Françaises, jeunes ou moins jeunes, eh bien, à trouver un emploi, à trouver leur travail et à se développer. Et c'est une excellente idée.
Le club MediaRH.com sur BFM Business.
On continue cette balade, on cherche un emploi, on peut construire sa vie comme venait de le dire notre ami Dominique Restino, on peut chercher un job avec le stand d'Estelle Sauva, mais on peut aussi, et c'est bien, découvrir la fonction publique, n'est-ce pas? Avec vous, Thierry Senamo, bonjour.
Oui, bonjour.
Senamo.
Je vous en prie.
Vous êtes directeur de la Fédération nationale des centres de gestion. Vous êtes accompagné de Cindy Labori. Vous êtes juriste.
Bonjour.
Alors vous, c'est le village, je découvre la fonction publique, la Fédération nationale des centres de gestion de la fonction publique territoriale, qui est régie par la loi de 1901. C'est ce que j'ai découvert.
Oui, alors, bon, la fédération a pour forme juridique la forme associative, mais surtout elle rassemble 97 établissements publics qui sont les centres de gestion et qui ont pour mission principale l'accompagnement des collectivités locales dans tous les aspects, dans toutes les dimensions de la politique RH. C'est-à-dire que ça va du recrutement, notamment avec l'organisation des concours, mais aussi les conseils en recrutement, très concrètement, jusqu'à la retraite. Donc ça suit toute la carrière du fonctionnaire.
Et c'est aider les Français et Françaises qui vont venir sur votre stand à trouver des offres d'emploi dans la fonction publique?
à trouver des offres d'emploi.
S'informer sur les formations.
Bien entendu.
Les concours, les filières.
S'informer sur les concours, s'informer sur les métiers aussi qui sont disponibles dans la fonction publique territoriale. Faut pas oublier justement que dans cette fonction publique, il y a plus de 230 métiers qui sont recensés. Donc c'est tout de même un vivier d'emploi particulièrement intéressant. Et on peut citer par exemple en tant que métier les travailleurs sociaux, des juristes, des auxiliaires de puériculture, des médecins, des animateurs, des éducateurs de jeunes enfants, des bibliothécaires, des chargés de commission, des ingénieurs, des gardiens de police municipale, etc. C'est simplement pour vous donner une idée de la diversité de la fonction publique territoriale. Là, on parle plus spécifiquement de territorial, parce qu'il existe aussi une fonction publique d'État et hospitalière, comme vous le savez. C'est tout de même 34%. Excusez-moi, des effectifs de la fonction publique au total.
Vous avez raison de le préciser. Cindy Laborie, vous qui êtes juriste, alors quel sera votre rôle à l'intérieur sous cette bannière de la fonction publique?
Alors déjà, c'est une nouveauté pour cette deuxième édition d'avoir un espace fonction publique et secteur public, donc on s'en félicite. On aura quatre types d'informations données aux personnes présentes sur notre stand. La première, vous l'indiquez tout à l'heure, ce sont les informations sur les dates et préparations au concours. Également, des informations sur comment chercher un emploi dans fonction publique, puisque la fonction publique territoriale, c'est quand même 58 000 employeurs entre les collectivités, les communes, les départements.
58 000 employeurs.
Différents, des établissements publics, locaux, et il y a une grande méconnaissance, donc c'est aussi...
C'est vrai, vous avez raison.
Et c'est aussi apporter de l'information et une plus grande sensibilisation sur ces métiers et ces employeurs. Également, un espace de coaching. Nous aussi, on renseignera, on accompagnera notamment les jeunes à retravailler leur CV pour un emploi dans les collectivités. Et aussi un espace plus particulier de conseil juridique aux fonctionnaires déjà en poste qui voudraient évoluer vers une autre fonction publique.
Ah, c'est-à-dire que ceux qui sont fonctionnaires peuvent aussi venir.
Tout à fait, venir.
Même s'ils ont déjà un job dans la fonction publique.
Il y a des experts RH publics qui pourront les renseigner sur leur évolution de carrière et également la mobilité d'une fonction publique à une autre ou vers également un autre secteur d'activité puisqu'on a aussi beaucoup de gens du secteur privé qui veulent intégrer le secteur public ou inversement, et on est là aussi pour étudier toutes ces possibilités avec eux.
C'est une forme de sacerdoce, je vous écoute là.
Oui,
il faut de la générosité pour venir sur un salon comme celui-là.
Tout à fait.
N'est-ce pas, Dominique Restino?
Absolument.
Il en faut de la générosité pour apporter toutes ces informations. Bravo, coup de chapeau que vous méritez tous. Là-bas, allez, je vous remets à tous une médaille, celle du salon. Il faut inventer la médaille du salon, d'ailleurs. Vous restez avec nous. Merci à vous, aussi bien vous Thierry Senamo que Cindy Laborie. On continue la visite virtuelle de ce salon qui va démarrer vendredi prochain.
BFM Business, le club MediaRH.com, Alexandre Lichamp.
Quatrième et dernière partie de cette émission spéciale Salon du Travail et Mobilité Professionnelle édition 2016 des 22-23 janvier prochain à la Grande Halle de la Villette à Paris. Regardez bien dans votre agenda, notez bien, vous pouvez, ça dure deux jours, vous pouvez pas louper, vous aurez le programme sur internet ou dans l'Express. Six villages thématiques, la mobilité professionnelle, l'entrepreneuriat, la recherche d'emploi, je cherche un job, le secteur public, on vient d'en parler. Je voudrais donner un coup de projecteur à la formation continue. Le village s'appelle Je me forme et à l'expatriation J'ose le monde, on l'a fait, mais et aussi donc à la fois vous présenter le village Je me forme avec deux invités qui viennent d'arriver et la formation tout simplement avec vous Ariane Fréhel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes directrice nationale des formations. Alors directrice, d'accord, nationale, vous allez nous expliquer. Ça veut dire quoi directrice nationale des formations d'abord?
Eh bien le CNAM c'est un réseau, nous avons plus de 30 centres régionaux du CNAM sur tout le territoire. Donc directrice nationale, ça veut dire que je m'occupe de l'ensemble de la formation pour les 65 000 auditeurs du CNAM à travers tout le territoire.
Alors, le CNAM propose quel type de formation?
Un ensemble de formations, celle que l'on connaît bien, licence, master, doctorat. De
formation supérieure.
Absolument, nous commençons à partir du bac. Mais aussi, nous offrons des formations professionnelles, des titres RNCP enregistrés et également des certificats professionnels, des certificats de compétences qui qualifient les salariés pour une évolution professionnelle.
J'imagine, Ariane Fréhel, que votre message, c'est de dire que la formation, c'est toute sa vie.
Absolument.
Et c'est l'objet dans ce salon, dans votre stand, de proposer des formations permanentes et dans tous les secteurs, dans tous les métiers, etc.
Ce salon, pour nous, c'est vraiment l'occasion de rencontrer notre public. Et notre public, ce sont les salariés, puisque 77% des personnes qui se forment avec le CNAM sont en emploi. Donc ce sont des personnes qui ont déjà une occupation, mais qui veulent transformer leur carrière, évoluer vers le haut ou évoluer vers un autre métier, développer leurs compétences. Et le CNAM est là, à leur côté, pour leur permettre cette évolution professionnelle à travers, bien évidemment, la formation.
Alors, qu'est-ce que vous proposez de concret sur le salon du travail qui va donc démarrer vendredi prochain, par exemple?
Deux choses concrètes. Premièrement, une première approche et une orientation sur l'ensemble de l'offre de formation qui est accessible, c'est-à-dire voilà mon projet, quelle est l'offre la plus adaptée pour me permettre de le réaliser. On a des formations évidemment dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine des sciences et des techniques, mais aussi dans le domaine management, société, gestion. La deuxième chose que l'on propose et qui est vraiment intéressante pour les personnes qui viendront sur le salon, c'est un conseil individualisé sur le parcours, avec des possibilités de faire des premiers entretiens pour se diriger vers une validation des acquis, la VAE, et puis des premiers entretiens de bilan de compétences. Ce sont des services qui ont vraiment beaucoup marché l'année dernière, et donc cette année, nous avons un petit salon particulier pour des entretiens sur ce genre de prestations avec nos conseillers.
Alors, les formations à distance, et ce que je vous propose, puisque on a la possibilité de faire, Ariane, eh bien, c'est donner également un coup de projecteur à des formations dans un secteur très particulier, qui fait partie d'ailleurs de ce qu'on appelle le haut de gamme, l'image de la France dans le monde. Je veux parler de la bijouterie, qui sont des formations dédiées à des besoins très spécifiques de ce métier, avec Michel Baldocchi.
Oui.
Bonjour Michel Baldocchi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Mais c'est un grand plaisir.
Alors vous
êtes heureux d'être là.
Vous êtes-vous directeur des écoles des BJO?
Alors l'école BJO, ce sont les écoles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. C'est une très vieille structure. Pas aussi ancienne que le CNAM, c'est quand même une école qui a plus de 150 ans. Et qui forme.
Elle le fait pas.
Elle le fait pas, absolument, et moi non plus, j'espère. Et qui forme depuis cette époque-là des futurs collaborateurs des entreprises de bijouterie, joaillerie parisienne et française. La bijouterie, joaillerie, c'est un secteur extrêmement important aujourd'hui, surtout
oui,
l'exportation. Les grandes marques.
Source de recettes.
Bijoutières et joaillières sont aujourd'hui, on les connaît, Cartier, par exemple, Van Cleef, mais aussi Vuitton, le groupe LVMH. Donc, c'est un secteur extrêmement fort, porteur d'emplois.
Alors concrètement,
qui exporte
justement,
énormément.
Alors quand on viendra sur le stand, je me forme au-delà de votre organisme, au-delà de, je veux parler bien sûr d'Ariel Frehl avec le CNAM. Oui. Il y aura donc la possibilité de découvrir des secteurs de formation dans les
Absolument.
Secteurs. Là, on fait un focus sur la bijouterie. Alors votre organisme, d'après ce que j'ai compris, c'est le BJO Formation, c'est le premier centre de formation de la bijouterie historique en quelque sorte.
Absolument. Ah, et puis c'est même le premier en termes d'effectifs.
Il est ouvert
de
à qui
frais de formation.
C'est ouvert à
alors,
qui
alors organise.
Quel âge, quel
regroupe plusieurs structures. Il y a une école qui est très ancienne, qui forme des jeunes, qui font une formation initiale en 4 ans pour préparer des diplômes.
Ouais.
En 4 ans, oui, pour préparer.
Diplôme reconnu.
Pour former des diplômes nationaux et le diplôme supérieur de joaillerie. Un centre de formation d'apprentis qui forme des apprentis qui vont travailler, qui vont devenir les collaborateurs de ces grandes maisons. Et aussi un organisme extrêmement important de formation professionnelle continue qui s'appelle BJO Formation et qui permet à des salariés d'autres secteurs ou à des personnes en reconversion de s'orienter vers les métiers de la bijouterie joaillerie.
Donc de nombreux parcours, des formations courtes.
Six différents parcours, des formations courtes et des formations longues et qui leur permet en un an, par exemple, de passer des diplôme d'Assonio et d'intégrer ensuite ce secteur-là, le secteur de la fabrication de la bijouterie joaillerie, mais aussi celui de la création, de la conception.
Ça représente combien d'emplois précisément? Alors, Michel Baldocchi, la bijouterie.
Le secteur de la bijouterie joaillerie représente plusieurs dizaines de milliers d'emplois dans tous les secteurs, dans le secteur de la fabrication. Il faut remarquer d'ailleurs que le secteur de la fabrication est un secteur aujourd'hui qui est toujours en France. Hein, c'est le haut de gamme n'a pas été délocalisé.
Dans de belles régions françaises.
Dans de belles régions françaises. Pour la joaillerie, principalement à Paris. Le siège des grandes entreprises est resté à Paris et les sites de production et de fabrication
aussi sont également
aussi
à Paris.
Absolument, absolument. D'accord. Mais il y en a dans toute la France. Et surtout, je le répète encore, c'est un secteur qui exporte énormément son design, son savoir-faire, sa connaissance. Aujourd'hui, il n'y a pas un pays dans le monde où chaque fois qu'une galerie marchande de luxe ouvre, on retrouve les grandes marques Chanel, Dior Joaillerie,
les grandes marques françaises,
Cartier, Vuitton qui s'installent et qui fournissent en fait ce marché qui connaît une très forte exportation avec en amont un besoin de main-d'œuvre qualifiée, bien formée. Et notre organisme et l'organisme de formation depuis plus d'un siècle de ce secteur-là.
Est-ce que vous pourriez nous chiffrer, Michel Baldocchi, donner un chiffre sur les besoins de ce secteur aujourd'hui?
Alors, les secteurs
en termes d'emploi
sont importants. Il y a plusieurs milliers d'emplois. On le voit d'ailleurs à travers deux éléments extrêmement importants. Le groupe LVMH, par exemple, a monté il n'y a pas très longtemps un institut des métiers d'excellence, qui est un gros organisme de formation qui va former à tous les métiers du groupe LVMH, dont la bijouterie joaillerie. Ils ont délégué d'ailleurs cette formation
à
notre établissement. Alors cette formation-là s'adresse à des jeunes en alternance de 16 à 25 ans, mais ils ont aussi besoin de gens avec des profils différents et qui ont suivi des cursus différents.
Ça peut être des seniors.
Ça peut être des seniors, ah, absolument. Ouais. Et nous avons dans notre organisme beaucoup de gens qui font de la reconversion professionnelle. On en parlait tout à l'heure pour le CNAM, qui peut être pris en charge dans le cadre de congés individuels de formation ou d'autres modes de financement ou d'autres structures.
Qu'est-ce qu'il faut avoir?
Aux gens qui sont à la recherche d'emploi.
Qu'est-ce qu'il faut avoir? Comment vous les reconnaissez?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un futur joaillier, créateur, concepteur,
star,
ou même un excellent exécutant? Ouais. Il faut d'abord avoir envie de le faire. C'est un métier d'art appliqué.
Hein. C'est une vocation, il y a un goût a priori.
C'est pas forcément une vocation, mais
ça s'apprend.
Ça s'apprend, tout s'apprend absolument. Mais c'est un métier d'art, c'est un métier d'art appliqué. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est extrêmement important. C'est un métier du savoir-faire, de la tradition. Ça reste encore un métier quasiment artisanal et pourtant avec un développement international. Voilà, dans les maisons. On dit toujours les maisons quand on parle des entreprises de fabrication de joaillerie. Les maisons continuent à parler effectivement des artisans bijoutiers qui travaillent avec eux. Ils sont plusieurs centaines, ils sont plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers même. Mais ils ont toujours ce statut, cette spécificité, cette particularité.
Alors j'espère qu'on vous a donné envie d'aller faire un tour. On est presque à la fin de cette émission spéciale Salon du Travail et Mobilité Professionnelle 2016, 22-23 janvier prochain. Nous qui parlons toutes les semaines dans le Club Média RH d'emploi, qui aidons les Français, les auditeurs de BFM Business à retrouver un emploi, à recruter leur futur employeur. J'espère qu'on vous a donné envie vraiment de vous précipiter et de prendre votre ticket pour aller à la Grande Halle de la Villette et découvrir peut-être votre métier de demain. Et je voudrais terminer à la fois avec... vous, Bernard Ramanantsou, et puis Gilbert Azoulay, d'abord le porte-parole du salon. C'est une belle aventure pour un organisateur de salon, d'abord avec vous, une minute, mais de s'intéresser de près au travail des autres.
Ah oui, et puis surtout, j'ai le sentiment, enfin avec toute l'équipe, d'avoir redonné de la valeur au mot travail.
Oui.
Parce que le salon du travail, c'était pas gagné, et on l'a imposé, ça c'est vraiment une belle réussite. Et puis, passer 2 heures à réfléchir aux 20 ou 30 ans qui vont venir dans sa vie, c'est pas inutile. Et là, on leur dit simplement aux gens, venez réfléchir aux 20 ou 30 années, ou 40 ans pour les plus jeunes, qui vont venir parce que c'est juste crucial, c'est juste décisif. Se dessiner un parcours, se dessiner une belle aventure, c'est quand même être beaucoup plus heureux au final.
Et même si on a déjà un job.
Bien sûr.
Il faut exercer sa curiosité. Bien sûr, on dit que quand on a un job,
bien sûr,
quand on a un travail, qu'il faut chercher le suivant.
On est bien dans sa tête, on est décontracté et on a envie de bouger. Et la mobilité, c'est quand on a un job ou quand on n'en a pas. Hein, de toute façon.
Bien sûr, mais quand on a un, c'est justement là peut-être qu'il faut réfléchir.
On est toujours en mobilité.
À la suite. Ouais. Il faut oser, n'est-ce pas? Et le mot de la fin sera avec vous, Bernard Ramanantsou. Apprendre et oser, ce sont les deux mots-clés de ce début de 21e siècle, c'est vous qui les prononcez. Oui. Apprendre et oser, oui. C'est indissociable.
Je crois que c'est indissociable, il faut surtout pas les opposer. C'est-à-dire que oser, c'est quand même quelque chose de formidable, c'est-à-dire que les gens qui osent sont tous heureux. Même quand ça se termine pas nécessairement par une grande réussite, ça fait partie de la vie.
Oui.
Mais les gens qui n'osent pas sont tristes, pour pas dire tristounés, et les gens qui osent sont épanouis. Donc ça, c'est la première chose.
Il vaut mieux avoir des regrets que de remords. Non,
voilà, exactement.
Il faut avoir essayé.
Voilà. Et d'un autre côté, apprendre, vous le disiez tout à l'heure, apprendre, c'est quelque chose de fondamental. Mmh. Tout s'apprend, on peut tout apprendre. Et à contrario, il faut pas croire qu'il y a des génies qui n'ont pas besoin de travailler, qui n'ont pas besoin d'apprendre. Ça n'existe pas. Les gens qui réussissent, les grands créateurs, les grands penseurs, les grands artisans, sont tous des gens qui apprennent et qui permettent ensuite à d'autres d'apprendre aussi. C'est-à-dire qui apprennent aux autres à apprendre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'essentiel.
Est-ce qu'il y a quelque chose sur le thème de la transmission, quelque part, oui, dans ce salon.
Mais j'espère, enfin, je connais pas l'organisateur.
La transmission d'entreprise fait partie de la création d'entreprise.
Ben voilà,
bien entendu.
Voilà. Transmettre dans le sens noble du terme.
Et transmettre aussi, bien entendu, puisque de toute façon, la formation professionnelle permet cet effet de transmission et le CNAM en la matière est plutôt bien placé.
Voilà, c'est la fin de cette spéciale. J'ai été ravi de vous faire découvrir en avant-première eh bien, ce fameux salon qui va ouvrir ses portes vendredi prochain. Je voudrais remercier à la fois Christophe Barbier, Bernard Ramanantsou, que vous venez d'entendre, Gilbert Azoulay, Rodolphe Richer, Louise Van Winkel, Dominique Restino, Estelle Sauva et également Thierry Senamo, j'espère que j'oublie personne, Cindy Laborie, Ariane Frehel, Michel Baldocchi qui se sont exprimés, sans oublier Héloïse, qui a été formidable, qui m'a aidé à préparer cette émission. Et c'est grâce à elle qu'on a réussi à faire tenir tout ce monde. C'est une première pour nous, plus de 10 personnes dans ce studio. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et précipitez-vous vendredi prochain. C'est ouvert toute la journée. Et il y a un site internet vite.
Bah oui, salondutravail.fr.
Voilà,
simplement.
Tout simplement. Merci Azoulay. Allez, à la semaine prochaine.